Ben, merci Pascal, merci à tous de m'accueillir ici chez vous dans votre aumônerie. Vous voyez, être étudiant dans une aumônerie, ça peut mener 10 ans plus tard à parler à des étudiants. Donc méfiez-vous. Non, blague à part, je suis très content d'être là parce que le temps d'aumônerie étudiante pour moi a été un temps important. Voilà, il se passe des trucs dans ces aumôneries et ces trucs restent quelque part. Enfin voilà. On s'en rend compte plus tard. Mais en tout cas, ça me fait particulièrement plaisir d'être là. Je vais vous raconter en 3 mots qui je suis et puis vous présenter mon journal, mon travail. Et puis après, effectivement, on aura un temps de questions-réponses. Donc moi, je m'appelle Lou Bémond de Senneville, j'ai 32 ans. Je suis journaliste à La Croix depuis 6 ans. Voilà, à La Croix, on est 120 journalistes à travailler tous les jours. Donc La Croix, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un quotidien donc qui paraît tous les matins en kiosque et sur Internet. Voilà, un quotidien, c'est une expérience un peu particulière. Pour rigoler entre nous, on dit qu'on est dans la lessiveuse parce la lessiveuse ne s'arrête jamais de tourner et un quotidien, c'est tous les jours, 7 jours sur 7. Donc voilà. Moi, j'ai fait des études de philo à la Sorbonne et puis ensuite, j'ai fait un master de journalisme à Strasbourg. Voilà, dans un master qui est lié à la fac de droit de Strasbourg. Et puis ensuite, j'ai travaillé 3 ans sur des questions économiques et politiques liées à l'Union européenne. Et puis ensuite, je suis entré à La Croix, donc en 2011. Je me souviens que c'était le lendemain de la béatification de Jean-Paul II et j'étais le seul à peu près frais dans le service que je rejoignais, puisque les autres avaient passé la nuit dans des cars de Pologne à Rome ou alors avec des pèlerins. Et donc j'ai rejoint le service religion du journal en 2011, où j'ai passé 6 années. Où j'ai monté aussi un site qui s'appelle La Croix Africa, qui est la déclinaison de l'actualité religieuse de La Croix en Afrique. Et j'ai rejoint, depuis le mois de septembre, le service France du journal, où je suis en charge de la rubrique bioéthique. La Croix, c'est le seul journal qui a un chargé bioéthique à plein temps. Dans les autres quotidiens, souvent c'est lié soit à la santé, soit à la famille. Par exemple, à Libération, il y a une partie de la bioéthique, tout ce qui concerne la fin de vie, c'est plutôt lié à la santé. Puis la partie plus sociétale est liée aux gens qui font plus droit des femmes, donc tout ce qui est par exemple PMA, GPA, contraception. Au Figaro, c'est lié à la famille et à la santé aussi. Au Parisien, c'est pas mal lié à la santé. Au Monde, ma consoeur qui fait la bioéthique, elle s'occupe de la santé et du droit des femmes. Donc voilà, c'est aussi un pari pour un journal chrétien qu'est La Croix de mettre quelqu'un à plein temps sur ces sujets-là. C'est pas intuitif, quoi. Ma rubrique, elle va du début à la fin de la vie. Donc c'est des sujets qui vont de tout ce qui concerne la conception. Donc ça touche aussi bien les questions de contraception que tout ce qui est PMA, GPA, recherche sur l'embryon et sur les cellules souches embryonnaires. Et puis à la fin de la vie, tout ce qui concerne euthanasie, suicide assisté, soins palliatifs, aussi la mort. La manière dont nos sociétés peuvent percevoir la mort. En général, ça va avec la fin de vie. Et puis, au milieu, il y a des sujets qui sont en train d'émerger assez fort en ce moment, autour de l'intelligence artificielle, du transhumanisme, de l'augmentation. Avec des chercheurs qui travaillent pour vous implanter des puces dans le cerveau et augmenter votre cerveau de manière considérable. Voilà, il y a des recherches très sérieuses qui sont menées aux États-Unis. Et un peu en France, un peu en Suisse aussi. C'est un champ qui est assez vaste et qui contribue assez bien à occuper mes journées. Peut-être je vous dire un mot de ce que sont les contraintes d'un journaliste qui travaille dans un quotidien. Parce que je sais qu'en face de moi, j'ai des spécialistes de la spécialité et qu'on est tous spécialistes de la spécialité. Et que souvent on reproche aux journalistes d'être trop rapides, trop vague, trop brouillon, trop superficiel. Et parfois, c'est vrai. Mais il y a une chose qui diffère, enfin, qui est important à comprendre pour appréhender ce que c'est qu'un journaliste et ce que c'est que la presse, c'est le temps. En fait, on travaille dans un temps qui est extrêmement restreint. Surtout pour un journal qui paraît tous les jours. Alors, il y a des choses où on arrive à avoir des coups d'avance et où on arrive à pouvoir prévoir des choses pour dans 2 jours, pour dans 3 jours, pour dans 4 jours, pour la semaine d'après, voire pour le mois d'après, pour des actualités qui sont prévues. Mais il y a aussi l'actualité qui tombe à 7h du matin, 8h du matin, 11h du matin. Et quand il faut rendre un article pour 17h, on essaye d'appeler les gens les plus intelligents possibles et d'être le moins caricatural possible pour pouvoir éclairer dans le journal du lendemain, pour pouvoir essayer de donner des clés d'un événement, d'une actualité qui est tombée. Par exemple, la semaine dernière, j'ouvre le site du journal Le Monde, ce qui m'arrive de temps en temps, à 7h du matin, et je tombe sur une tribune de 156 députés qui demandent une nouvelle loi sur la fin de vie. Donc, ils demandent d'ouvrir une aide active à mourir, donc l'euthanasie, et en partie le suicide assisté. Et donc voilà, le but, c'était que j'avais la journée pour écrire un article sur ce que ça voulait dire que cette tribune, sur la mobilisation politique que ça recouvrait, de faire réagir des... De, non seulement d'interroger les gens qui avaient écrit cette tribune, mais aussi de faire réagir les gens des soins palliatifs, qui sont évidemment pas favorables à ces évolutions. Et donc, voilà, il y a un temps limité, qui est un facteur temps qui est important, quoi. Et c'est ce qui différencie le chercheur du journaliste, ou le juriste du journaliste, ou le médecin du journaliste, c'est qu'on n'a pas souvent le même temps. Moi qui suis souvent en relation avec des médecins, je commence toujours mes conversations par « Bonjour docteur, est-ce que vous êtes en consultation ?» En général, au bloc, ils ne me répondent pas, il vaut mieux. Mais voilà, en tout cas, il y a un facteur temps qui n'est pas le même et qui est important à comprendre. La deuxième contrainte que j'ai, c'est la place. J'ai une place qui est limitée et donc on est contraint de faire des choix pour faire ce métier, y compris pour expliquer des sujets qui peuvent être extrêmement complexes. Donc voilà, j'aborderai la complexité un peu après. Je voulais vous dire un mot du processus qui est en cours en ce moment sur la révision des lois de bioéthique. Vous avez vu peut-être Tuc Duhalderville qui a dû vous en parler la semaine dernière. Voilà, en ce moment, on est... vous savez que la loi... Enfin, vous savez pas que depuis 1994 en France... Les grands principes bioéthiques sont fixés dans la loi et la loi doit être révisée régulièrement. En ce moment, c'est plutôt tous les 7 ans. Donc la dernière révision date de 2011 et le but de cette révision, c'est de prendre en compte dans la loi les nouveaux défis éthiques et les nouvelles questions éthiques qui sont posées par les nouvelles techniques. 7 ans, c'est long et c'est court. C'est très court parce que qu'est-ce que ça veut dire de fixer des principes éthiques périmables? Voilà, je pense que c'est une vraie question. Et c'est très long parce qu'en 7 ans, il y a plein de techniques qui voient le jour, notamment en termes de manipulation génétique, de techniques médicales. Et parfois, en 7 ans, on a des questions qui se posent. Et donc, les chercheurs ou les politiques avancent sans attendre les garde-fous éthiques. Donc voilà, il y a cette exigence de réviser cette loi régulièrement. Et dans la loi, il y a une obligation, c'est de faire une consultation de la société avant toute révision des lois de bioéthique. Et donc c'est ce qu'on appelle les états généraux de la bioéthique qui ont lieu en ce moment, qui ont été lancés sous l'égide du Conseil consultatif national d'éthique, le CCNE, et qui... Voilà, là, qui correspondent en ce moment à 6 mois de consultation, donc c'est un processus qui est très rapide. Ça a commencé en janvier, il y a des débats dans toute la France qui sont coordonnés par les agences régionales de santé et les CHU, et ce qu'on appelle les espaces éthiques régionaux. Et donc il y a un certain nombre de débats dans toute la France sur toutes les questions qui peuvent être concernées, Donc aussi bien toutes les questions que j'évoquais tout à l'heure, la procréation, la fin de vie, aussi la médecine prédictive, le transhumanisme, les big data, enfin un certain nombre de questions. Le but de l'opération, c'est que en juin, le CCNE se saisit donc le Conseil consultatif national d'éthique se saisit de tous les résultats de ces débats, mouline un rapport, l'envoie au gouvernement. Le gouvernement sort un projet de loi à l'automne, donc fin août, début septembre, qui sera le vrai projet de loi de la révision des lois de bioéthique. Et ce projet de loi est discuté après, suit un processus parlementaire classique que Macron veut plutôt rapide. Parce qu'on voit bien qu'il y a dans son mode de gouvernement à la fois un côté très vertical et en même temps une volonté de ne pas fracturer la société française. Et puis le traumatisme qu'a vécu Hollande autour du mariage pour tous est quand même assez présent voilà, à la fois chez Emmanuel Macron et chez ceux qui le conseillent. Donc en tout cas, présentation du projet de loi en septembre-octobre et puis discussion parlementaire à l'automne et peut-être adoption du texte en janvier, février, mars, peut-être avril, mai, enfin, on ne sait pas encore très bien. Pour l'instant, les contours sont assez flous. Voilà. Ça, c'est un peu le processus des états généraux de la bioéthique. C'est, je pense, important que vous en soyez conscient, parce que enfin, je pense que Tuc Dual vous a sensibilisé à...
Mais nous n'y étions pas tous, c'est très bien.
Vous a sensibilisé la semaine dernière à l'importance de prendre part à ces débats, et je pense que c'est important de le faire comme citoyen, comme futur médecin, comme infirmier. Enfin voilà, j'étais tout à l'heure à la conférence des évêques de France où Mgr Dornelas, qui est le monsieur bioéthique des évêques, encourage beaucoup aussi les catholiques à participer à ces débats. Notre manière, nous, à la Croix, de traiter ces questions, je vais vous dire comment on traite les états généraux de la bioéthique, puis après, j'élargirai sur comment moi j'essaye de traiter ces questions qui sont très très complexes. Notre manière, c'est qu'on les a traitées en deux morceaux. Il y a un premier morceau qui est une série de dossiers qu'on va faire là à partir de lundi, sur 3 semaines, 3 pages par jour. Donc on prend les dossiers à froid, un par un, on essaye de faire le point sur quelles sont les questions qui se posent, les questions juridiques, techniques, éthiques, de donner la parole à tout le monde, qui sont les forces en présence, et puis de donner évidemment aussi un témoignage, un éclairage d'église, pour savoir ce que pense l'église. Voilà, c'est 3 pages par jour, et on fait le choix de le faire un peu à froid, en dehors de l'actualité. Donc, je ne sais pas, la semaine prochaine, par exemple, il y a PMA, CRISPR-Cas9, qui a une technique de manipulation génétique très précise, la GPA, les nouvelles greffes, et un cinquième qui m'échappe. Non, alors ça sera pour la 3e semaine, pour la semaine prochaine, je ne sais pas. Donc voilà, l'idée c'est d'essayer de savoir de quoi on parle en fait. Voilà, qui est aussi important, et je pense que c'est aussi important en tant que chrétien de savoir de quoi on parle, et si on se bat, de savoir pourquoi on se bat, ou contre quoi on se bat, quelles questions on se pose. Enfin, voilà, moi je viens de boucler là le dossier sur les cellules souches embryonnaires. Pour moi, c'était important d'avoir aussi des chercheurs qui cherchent sur les embryons et sur les cellules souches embryonnaires. Et j'en viens à mon point suivant qui est, pour moi, l'important. Alors, pardon, dans notre traitement des états généraux de la bioéthique, il y a donc ces dossiers à froid et puis il y a le traitement de l'actualité qui est cette espèce de feu roulant qui ne s'arrête jamais. Cet après-midi, une conférence de presse de Mgr Dornelas sur comment est-ce que l'Église va s'impliquer sur les états généraux de la bioéthique. Hier soir, une décision de justice fixant un âge limite pour les hommes pour recourir à la PMA. Donc voilà, le tribunal administratif de Versailles a dit pour les couples qui veulent recourir à la PMA, l'homme doit avoir autour de 59 ans. Parce qu'au-delà, c'est plus acceptable. Donc voilà, ça c'est le feu roulant de l'actualité, donc avec des décisions judiciaires, avec des papiers de recherche qui sont publiés, avec des prises de position politiques, comme celle de la semaine dernière sur l'euthanasie. Moi j'essaye de me fixer une ligne en traitant ces questions, qui est la première ligne que j'ai... Enfin, le truc que j'essaye de me répéter tout le temps, c'est « honore la complexité ». Pas « honore ton père et ta mère », mais « honore la complexité ». Et honorer la complexité dans ces questions, ça veut dire vraiment prendre acte que c'est compliqué. Ça veut pas dire une démission de la pensée, c'est d'abord entrer dans un sujet et essayer de voir que c'est pas noir et blanc, que celui avec qui je suis pas d'accord n'est pas un adversaire a priori. C'est essayer d'écouter et d'entrer dans la complexité des sujets. C'est hyper difficile. C'est hyper difficile parce que c'est des sujets qui soit ont une part de technicité, tout ce qui est recherche sur les cellules souches embryonnaires, moi j'ai pas mal bouquiné là ces dernières semaines pour essayer de comprendre de quoi je parlais, et j'ai posé plein de questions bêtes à plein de très grands chercheurs, voilà, mais parce que voilà, je suis payé pour ça. Mais donc voilà, il y a une complexité qui est une complexité scientifique, il y a une complexité philosophique, il y a une complexité juridique, il y a une complexité politique. Donc voilà, il faut tenir compte de cette complexité et il faut tenir compte que ces questions concernent la vie des gens. Voilà, il ne faut pas... Duhal d'Herville, il y a un truc assez juste, il dit la douleur peut anesthésier notre pensée. Et donc si on aborde des sujets uniquement par le biais du témoignage, de la douleur, on voit bien que ça peut nous pousser à moins penser, quoi. Ou à moins prendre du recul, parce qu'on est collé à une sorte de douleur qui est très forte. Ça, on a tous connu dans nos vies ces trucs où on n'est pas capable de sortir de ça, quoi. Mais en même temps, cette douleur, cette demande, il faut en prendre compte quand... Enfin, moi, j'essaye d'en prendre compte quand je traite de ces sujets. Donc, la question de l'extension des PMA aux couples de femmes, je pense qu'il faut entendre le désir d'enfant. Voilà. Après, qu'est-ce qu'on en fait? Comment on y répond? Mais je veux dire, on peut pas juste dire... en plus, moi j'ai 32 ans, j'ai 3 gosses, j'ai eu aucun problème pour avoir des enfants et tout. Moi, je me vois pas leur dire « Ouais, mais c'est bon, vous avez qu'à faire autrement et tout. » Enfin, voilà, il faut entendre ça, quoi. Et je pense que c'est important dans tous ces débats de bioéthique sur la santé, enfin, vous qui êtes médecin ou qui connaissez quand même bien le milieu médical, vous savez que les questions de fin de vie, elles sont infiniment complexes, quoi. Et je veux dire, elles sont plus complexes que on va faire une piqûre, et elles sont plus complexes que on va vivre jusqu'au bout, tout ça va être très beau jusqu'au bout, et l'agonie c'est super, et tout ça. Donc je veux dire, on est dans des situations complexes, voilà, il faut honorer cette complexité. Pour honorer cette complexité, moi j'essaye de, quand je traite un sujet, de parler avec toutes les parties. Donc sur la PMA par exemple, de parler avec l'association des parents gays et lesbiens, de parler avec la Manif pour tous, de parler avec des philosophes qui pensent aussi notre modèle de filiation, qu'est-ce que ça change, avec des juristes qui disent que ça peut changer, d'élargir cette demande, d'élargir l'accès de cette technique aux couples de femmes et aux femmes seules, de parler à des psychanalystes qui disent qu'est-ce que ça change d'avoir des enfants sans présence paternelle, mais aussi d'avoir des enfants avec un parent. C'est-à-dire que là, les débats du moment, c'est pas est-ce qu'on peut se passer de père, c'est est-ce qu'on peut avoir un parent. Donc ça décale encore la question. Voilà, il y a des ressources en psychanalyse, il y a des ressources dans un certain nombre de domaines. Donc voilà, j'essaye de à la fois identifier les dimensions d'un sujet, de résister au traitement hystérique et très émotif, quoi. Donc ça, c'est compliqué, hein. Notamment sur la fin de vie, c'est hyper difficile. Parce qu'on voit bien que les partisans de l'euthanasie militants, voilà, la technique, c'est de sortir assez régulièrement des cas qui sont très douloureux, qui sont très compliqués. je vous dirai tout à l'heure un mot de Anne Behr, cette femme qui était atteinte de la maladie de Charcot, qui est allée demander l'euthanasie en Belgique. Mais voilà. Donc il y a un truc d'essayer de résister à ces cas très douloureux et d'essayer à la fois de les prendre en compte et de les tenir à distance. Donc il y a une forme de tension qui pour moi est vachement difficile à tenir. Quoi. De ne pas être le monstre froid philosophe quoi, qui convoque les psychanalystes et voilà. Et en même temps de ne pas rester collé à des cas personnels. Voilà, la deuxième exigence que je me fixe à moi, c'est d'essayer de rendre ces sujets accessibles et compréhensibles. C'est des sujets qui souvent comportent des points scientifiques qui peuvent être extrêmement complexes. Enfin, sur les cellules souches embryonnaires, c'est assez fort. C'est-à-dire qu'il y a, des protocoles de recherche qu'il faut essayer de comprendre et puis essayer de restituer de la manière la plus simple possible tout en restant juste. Donc c'est là où pareil le journaliste peut être un peu accusé de simplifier assez rapidement, etc. Il faut à la fois simplifier et essayer de rester juste. Voilà, il y a toujours un équilibre à trouver. Un journal quotidien et même une radio, c'est pas une revue de chercheurs, quoi. Donc quand vous écoutez RTL le matin, si vous voulez que ces sujets-là ils soient traités sur RTL, il faut les prendre de manière extrêmement simple, qu'ils ne soient pas simplistes. Voilà, donc il y a un équilibre à tenir qui peut être compliqué. La troisième exigence que j'ai, donc après elle a honoré la complexité et rendre accessible, c'est de respecter la ligne qui m'est fixée. Moi, je travaille à la Croix, je ne travaille pas à Libération, je ne travaille pas au Monde diplomatique. Je travaille pas à Mediapart, je travaille pas au Figaro, et donc on a chacun, je travaille pas au Monde, et on a chacun une ligne éditoriale sur ces sujets-là, qui est assez claire. Et nous, je travaille pas non plus à Famille Chrétienne, qui a pas la même ligne que nous, enfin qui a pas en tout cas la même manière de porter la ligne. Nous, on essaye à la Croix, mais dans tous nos sujets, je veux dire, ça vaut aussi quand on parle des migrants, quand on parle d'environnement, on essaye de porter une certaine vision de l'homme, de ce que c'est dans sa fragilité, quoi. De ce que c'est que la fragilité humaine, de ce que c'est que les difficultés, avec un mot qui revient souvent, qui est un peu le mot à la mode, de résilience, de droit à l'erreur, de voilà. Donc il y a une volonté de prendre en compte cette fragilité, voilà, qui est assez forte, et qui, moi, me guide pour mes sujets sur l'embryon, sur l'euthanasie, même sur l'homme augmenté. Je veux dire, si on entre dans des questions de technologie, de pointe, qui va y accéder, est-ce qu'on va avoir des gens très riches qui vont pouvoir accéder à des technologies et d'autres qui ne pourront pas y accéder. Ça vaut aussi en santé, ça vaut, enfin voilà, ça vaut dans plein de domaines. Peut-être je peux vous dire un peu comment moi j'ai essayé de traiter l'affaire Anne Behr, parce que je pense que c'est bien d'être concret. Anne Behr, vous voyez à peu près ou pas? Donc Anne Behr, atteinte de la maladie de Charcot, je dirais une cinquantaine d'années. La maladie de Charcot, c'est une maladie qui dont les symptômes, c'est la paralysie des muscles, des jambes, des bras et les muscles pour respirer. C'est ça, les médecins. Ouais. Voilà, c'est une maladie évolutive contre laquelle il n'y a pas aujourd'hui de traitement connu. Donc c'est une maladie qui est terrible. Et donc cette femme sort un livre à la fin de l'été qui s'appelait Le dernier été, où elle raconte son dernier été et en disant qu'elle a décidé d'aller demander l'euthanasie en Belgique. Elle est sur tous les plateaux, elle donne une interview bouleversante sur France Inter à Léa Salamé, mais qui est vraiment bouleversante, je veux dire parce que cette femme se pose des questions, voilà, qui... elle est face à une maladie qui est terrible. Son livre est assez touchant. Moi, je le lis. J'arrive le 15 septembre dans le service. On me dit il faut que tu t'occupes d'Anne-Bert. Donc, premier papier sur Anne-Bert. Tout ça. Je rentrais de 8 semaines de congé paternité, enfin, vacances congé paternité. Le choc prophylactique a été violent. Donc voilà, je fais un premier temps sur ce livre et qu'est-ce qu'il contient. Un petit papier assez informatif. Voilà, je raconte Anne-Bert, qui elle est, dans quel état elle est, ce qu'elle demande. En gros, sa limite, c'était de dire le jour où je ne pourrai plus m'habiller seul et me nourrir seul, je ne serai plus digne de vivre ma vie, et donc j'irai demander l'euthanasie en Belgique. Donc vous voyez que la question du seuil, de la dignité, il est quand même placé à un endroit qui est vachement interpellant, quoi. Le deuxième temps, c'est que le lendemain, donc il y a une médiatisation très forte autour de cette femme, le lendemain, on a fait réagir, on a appelé des chefs de service de neuro dans pas mal d'hôpitaux, et on a raconté comment est-ce que les malades de la maladie de Charcot réagissaient. Est-ce que ça a réveillé en eux et la colère qui pouvait aussi les habiter de ça, en disant ben nous on essaye de vivre avec cette maladie et que notre vie ait un sens et en allant assez loin. Et donc voilà, on a voulu donner. Le but c'était pas de défoncer Anne-Bert, hein. Le but c'était de dire il y a une autre vision qui est possible. Voilà, on a fait une page là-dessus, c'est mon collègue qui s'occupe de la santé, qui s'appelle Pierre Bienveau, voilà, qui a appelé un certain nombre de neurologues, qui a aussi appelé des gens qui venaient d'être diagnostiqués et qui racontaient comment est-ce que cette histoire d'Anne-Bert pouvait bouleverser, eux, la manière dont ils percevaient leur maladie. Voilà, c'est une maladie qui se développe en 3, 4, 5 ans, avec une avancée qui est quand même assez rapide. Et le troisième temps, c'est que Anne-Bert avait dit dans Libé qu'elle correspondait avec un jeune homme qui était très croyant, qui avait une maladie de Charcot et qui ne faisait pas le même choix qu'elle. Elle avait dit ça au détour d'un témoignage. Et donc je me suis dit, tiens, il faudrait retrouver ce jeune homme. Donc je l'ai retrouvé. Et j'ai été le voir. Et en fait, cet homme, j'ai raconté son histoire. Alors, il se trouve qu'en plus, c'est un ancien rappeur des années 90, d'un groupe totalement mythique, que vous connaissez sûrement pas, qui s'appelle la Funky Family, et qui est un groupe genre IAM, NTM, enfin, qui est vraiment le gros groupe, l'un des 3-4 gros groupes du rap marseillais de la fin des années 90, début des années 2000, que je connaissais pas, hein, je me suis renseigné, avant d'aller voir. Et donc, je tombe sur ce type. Voilà, il est à Toulouse, près de Toulouse, je prends l'avion, la voiture. Alité, avec vraiment un stade assez avancé de la maladie de Charcot, trachéotomisé, donc avec un tuyau là pour respirer. Très lourdement, avec un protocole médical très lourd, bardé de machines, c'est-à-dire que quand on entre, il y a quand même un petit côté Dark Vador avec les respirateurs qui sont très impressionnants. Et ne pouvant plus parler, donc avec une synthèse vocale en fait au-dessus de son lit, et en fonction de son regard en fait, il dirigeait son regard sur un alphabet, et c'était la synthèse vocale. Donc là, c'était la respiration de Dark Vador et la voix du GPS. C'était la synthèse vocale qui exprimait ses réponses. Entretien très particulier, comme jamais je n'en ai fait en 10 ans de journalisme. Avec des silences, parce qu'évidemment il est hyper long pour composer ses réponses, donc avec des silences qui sont très longs, beaucoup plus longs que les réponses et que les questions, avec aussi enfin voilà, une fatigue, mais voilà, enfin, je veux dire, c'est un entretien pendant lequel il a ri, il a pleuré, enfin il m'a raconté le lien avec sa vie d'avant et avec ses gamines de 4 et 6 ans qui montent et qui me disent « Ah, papa va passer à la télé, moi j'étais avec mon crayon, mon carnet. » Donc voilà. Et donc ce portrait paraît quelques semaines plus tard sur deux pages dans La Croix, et c'était aussi une autre manière à nous, à travers cette histoire hyper paisible. Enfin voilà, le type pas... En plus, il avait correspondu avec Anne-Bert pendant un mois, par mail. Et tous les deux avaient vraiment échangé, quoi. Et donc, moi, j'ai pas monté cette histoire contre Anne-Bert. Moi, j'ai voulu montrer, à travers l'histoire de ce type, comment est-ce qu'on pouvait vivre avec cette maladie, mais sans cacher rien de sa révolte, de son incompréhension. C'est un type qui est un musulman très profondément croyant, très spirituel. Alors, il n'y a pas... en tout cas, chez les musulmans, il y a peut-être moins ce phénomène de révolte qu'il peut y avoir chez les chrétiens, ou même chez les juifs, où il peut y avoir une révolte, quoi. Enfin, dans les psaumes, il y a une révolte, il y a le fait de crier à Dieu. Je pense que chez les musulmans, c'est moins présent. Donc, il y avait moins cet aspect-là. Mais en tout cas, il y a tout l'aspect de l'incompréhension de sa maladie, etc. Et ça, je trouve ça intéressant de rentrer aussi dans cette complexité-là, de pas juste l'entendre dire « bah ouais, c'est facile, c'est tout est super », et tout ça. Il faut aussi s'interroger. Enfin, moi, je lui ai dit franchement, quel sens a votre vie là, quoi. Et en fait, c'est hyper beau, ce qu'il dit. Donc voilà. C'est juste pour vous montrer, sur cette histoire d'Anne-Bert, comment est-ce qu'en trois morceaux, on essaye de déployer c'est pas un feuilleton, parce que j'ai pas feuilletonné cette histoire, mais en tout cas, comment est-ce qu'on essaye de déployer trois dimensions d'une question complexe, et nous on essaye de donner à nos lecteurs de quoi penser, quoi. Voilà. Voilà, j'ai pas mal parlé là. Je suis à combien? 31. Et non, je vais avant de passer à vos questions, je voulais juste vous dire quelques convictions que moi j'ai sur la bioéthique. La première, enfin, et comme chrétien, et voilà. Vous avez compris que je suis un peu catho. La première, c'est que la bioéthique, c'est pas la propriété des cathos. Souvent, on se dit les cathos, ils sont hyper forts en bioéthique. Et d'ailleurs, moi, je dis avec fierté La Croix, le seul journal, ça. Mais voilà, la bioéthique, c'est pas la propriété des cathos. Il y a plein de gens qui font de la bioéthique qui sont pas cathos. Et même qui pensent l'inverse, quoi. Voilà, je pense que c'est important de l'entendre. Il y a des philosophes, à Marseille, il y a un philosophe qui s'appelle Pierre Lecaus qui travaille avec, à la fac de médecine. Vous avez aussi dans les facs parisiennes un certain nombre d'éthiciens qui vous aident à résoudre les dilemmes éthiques, d'abord qui vous racontent ce que c'est un conflit de valeurs, et qui essayent de vous dire comment est-ce qu'on essaye de sortir de ce conflit de valeurs. Donc la bioéthique, c'est pas la propriété des cathos. Mais l'Église est super forte quand même. Voilà, qui est dans la matière. L'Église, c'est la seule institution publique en France qui travaille à plein temps sur les questions de bioéthique. Bon, il y a le CCNE, mais je veux dire, il y a des gens qui sont en permanence chargés de ça, et aussi bien Mgr Dornelas, donc, qui est à Rennes, que Mgr Petit à Paris. En fait, c'est pas mal d'anciens médecins qui s'intéressent à ces questions-là, mais pas uniquement. Voilà, l'Église, elle a une expertise. Donc, elle n'est pas propriétaire de ces questions-là, mais en tout cas, elle a une vraie expertise. Et d'ailleurs, Macron a organisé il y a 10 jours un dîner sur la fin de vie. Et il y avait autour de la table Jean-Luc Romero de l'Association pour le droit de mourir pour la dignité, donc très pro-euthanasie. Il y avait des gens des soins palliatifs, et puis il y avait aussi Mgr Petit. Il y avait aussi Raïm Korsia, le grand rabbin de France, il y avait aussi Hermet Aubras. Du Conseil français du culte musulman. Enfin voilà, en tout cas, il y a une vraie légitimité. Voilà. Et puis la troisième chose que je voulais vous dire en conclusion, c'est qu'il me semble à moi qu'on est en train de vivre une forme de dépolitisation de la bioéthique. C'est-à-dire qu'on est dans un cycle où depuis 15 ans, 20 ans, le politique confie de plus en plus la réflexion bioéthique à des experts, en créant des instances de gens qui sont chargés de réfléchir à l'éthique et à la bioéthique. Et les politiques disent, bon, alors là, il y a une question qui est complexe, on va leur demander ce qu'il faut faire, et on va suivre leurs conclusions. Et en fait, ça, c'est hyper dangereux. Non pas parce que les gens qui composent ces comités sont dangereux ou sont mauvais, mais parce que le politique se dédouane totalement de sa responsabilité sur des comités d'experts qui n'ont pas de légitimité démocratique, qui ont une légitimité scientifique, philosophique, éthique, médicale. Je veux dire, les gens qui composent le CCNE, c'est des gens qui sont remarquables. Il y a des philosophes, il y a des sociologues, il y a des économistes, il y a des juristes. Il n'y a plus, mais il y a eu des théologiens. Donc voilà, c'est des gens qui sont remarquables, mais cette propension qu'a le politique à dire sur cette question, donc typiquement la PMA, on va laisser le comité d'éthique donner un avis et on le suivra, c'est le signe d'un dédouanement du politique, et je pense qu'il faut y être attentif. Parce que ces comités d'éthique pourraient très bien fonctionner autrement. Marion Muller-Collard, qui est théologienne protestante, qui est membre du comité d'éthique, qui est par ailleurs très libérale, me disait, moi je ne comprends pas très bien pourquoi dans notre comité on donne des avis. Il faudrait qu'on fasse le point sur les problématiques ou les dimensions éthiques ou les points de butée philosophiques, éthiques d'une question, et après c'est aux politiques de prendre sa décision. Et on n'a pas, nous, à conclure dans un sens ou dans un autre. Et voilà, je trouvais que c'était un point de vue intéressant. Peut-être que ça changera, peut-être pas. Mais en tout cas, voilà, cette relation entre le politique et ces comités d'experts sont des choses qui peuvent être intéressantes à regarder. Voilà, j'ai trop parlé. Merci.